Poésie présente Le meilleur est à venir de Françoise Bourdat, lue par Audrey Dulster. À ma petite fille, Marguerite, si jolie, si vive et si déterminée, dont le sourire éblouissant m'émeut lorsqu'elle arrive à PM en criant « Mouti ». Que l'avenir lui réserve tous les bonheurs, moi, je lui donne tout mon amour. Chapitre 1. Margot recula pour observer d'un œil critique l'imposant tableau abstrait qu'elle venait d'accrocher. À condition de lui installer un éclairage adéquat, il serait parfait entre ces deux fenêtres.
« Le café est prêt !»
cria Axel depuis la cuisine. Quittant le salon, elle traversa une autre pièce qui n'était pas encore meublée et rejoignit son mari.
« J'ai trouvé le grille-pain. Je nous fais des toasts. »
annonça-t-il. « Les enfants dorment ?»«
Je suppose. »
Ils étaient arrivés le vendredi, précédant de peu le camion de déménagement, et avaient espéré que le week-end suffirait pour vider les cartons, mais hélas, non. Si les meubles avaient presque tous trouvé leur place grâce à un soigneux repérage effectué en juin, les objets, les livres et la vaisselle s'empilaient en désordre un peu partout.
« Je n'aurais pas cru que ce serait aussi difficile, »
soupira-t-elle.
« Et exténuant. »
Elle lui jeta un coup d'œil pour estimer son humeur. Leur entente était encore fragile. Des heurts pouvaient survenir au détour d'une phrase. Pour cette raison, elle ne voulait pas lui faire part des doutes qu'il avait assaillis en se réveillant, la veille, dans cette chambre inconnue et vieillotte, où tant de choses étaient à refaire. Mais maintenant, ils auraient tout le temps nécessaire pour réorganiser la maison, en prendre pleinement possession et tenter de retrouver dans ce nouveau lieu leur ancienne complicité.
« Je te sers ?»
proposa-t-il, tendant la cafetière fumante au-dessus d'un mug. Il ne s'était pas encore douché, avait les cheveux en bataille et les traits tirés. Pourtant, il restait séduisant. La quarantaine lui allait bien, et depuis leur arrivée, son regard brillait d'une lueur d'excitation. Désignant des taches d'humidité autour d'une fenêtre, il déclara qu'il allait s'attaquer sans tarder à la rénovation de la cuisine, qui était grande et dotée d'une cheminée en état de marche.
Ce sera la pièce de vie avant qu'on puisse s'occuper des autres. Les engoulevents n'ont été ni habités ni chauffés depuis bien longtemps, et je suis même étonnée que ce ne soit pas plus dégradé.
Son enthousiasme ne faiblissait pas, alors qu'elle-même se sentait découragée. 2 mois plus tôt, lors de la première visite des enfants, organisée pour les préparer au changement, Axel avait expliqué que le manoir s'appelait ainsi à cause d'un de ses lointains ancêtres, férus d'ornithologie. Margot s'était demandé s'il venait d'inventer l'anecdote ou si elle était vraie. Leur fils, Rodolphe, avait aussitôt voulu savoir à quoi ressemblait un engoulevent, et d'après la description fournie par Axel, ce n'était pas un très bel oiseau. En revanche, son cri nocturne si particulier ressemblait à un ronronnement sonore et rapide qui pouvait s'entendre à près d'un kilomètre.
« Comme un solex !»
avait précisé Axel. Un chahut au-dessus de leur tête leur fit comprendre que les enfants étaient réveillés et se chamaillaient déjà. Avoir choisi le mois d'août pour déménager n'était sans doute pas une bonne idée, contrairement à ce qu'ils avaient cru.
« Ils ne nous seront d'aucune aide, j'en ai peur »,
regretta Margot. Mais elle avait moins de travail au cœur de l'été, et elle s'était imaginé qu'à cette saison, ils pourraient vivre toute fenêtre ouverte durant quelques semaines et ainsi chasser l'odeur de renfermé. De plus, les enfants auraient tout le temps de se familiariser avec le manoir et ses alentours avant de découvrir leur nouveau collège. Enfin, et surtout, mais elle ne l'avait pas dit, la présence de Rodolphe et d'Angélique servirait de dérivatif, lui évitant un tête-à-tête crispé et parfois houleux avec Axel. Car il n'était pas encore remis. D'ailleurs, elle non plus. Le coup de canif qu'elle avait donné dans le contrat de leur mariage cicatrisait mal. Levant les yeux vers l'extérieur, elle observa la course des nuages poussés par un fort vent venu de la mer. S'il se mettait à pleuvoir, les enfants n'allaient pas pouvoir jouer dehors.
« Maman, on a pensé à acheter du lait ?»
Angélique venait d'entrer, aussi ébouriffée que son père, et serrant contre elle les pans de sa robe de chambre rose.
« Quand tu dis « on », à qui penses-tu »
s'enquit Axel avec un clin d'œil. La veille, avant que la supérette la plus proche ne ferme, il était allé faire un gros ravitaillement pour parer au plus pressé.
« Il y a du lait, du beurre et même de la confiture. Tu ne mourras pas de faim, ma puce. »«
Pas de cornflakes ?»
s'indigna Rodolphe en les rejoignant.
« Dépêchez-vous de grandir pour qu'on vous envoie faire les courses vous-même !»
râla Margot. Elle se reprocha aussitôt sa remarque, mais elle était agacée de devoir toujours sourire et apaiser les tensions. Et puis se sentir coupable en permanence n'arrangeait rien. De nouveau, elle tourna son regard vers la fenêtre. Une petite pluie fine commençait à tomber, achevant de la démoraliser.
« J'ai un message !»
signala Axel, qui tenait son téléphone.
« Viviane et Maurice nous invitent à dîner. »
« C'est très gentil de leur part !»
se força-t-elle à dire. Encore un paramètre à prendre en compte. La tante et l'oncle de son mari, qui l'avait en partie élevé et qui habitait à quelques kilomètres, allaient-ils se révéler une aide ou une contrainte? Axel éprouvait à leur égard un mélange d'amour et de reconnaissance qui constituait pour lui une raison supplémentaire de se sentir bien ici. Elle se leva, marmonna qu'elle avait du travail et quitta la cuisine, son mug à la main. La pièce où elle avait choisi d'installer son bureau se trouvait à l'autre bout du rez-de-chaussée. Deux fenêtres en angle, une cheminée de pierre blanche et des boiseries en assez bon état l'avaient séduite. Mais avec ce temps gris et pluvieux, elle ne lui trouvait plus le même charme. Elle considéra la table ultra-moderne sur laquelle elle avait passé tant d'heures depuis quelques années, découvrant qu'elle jurait dans ce décor. Après avoir bu deux gorgées de café, tiède comme elle l'aimait, elle s'assit et ouvrit son ordinateur. Se concentrer allait lui demander un gros effort. Mais son client attendait les images en trois dimensions qu'elle s'était engagée à lui envoyer rapidement. Ce joli chantier de réhabilitation mobilisait toutes ses capacités de designer, elle qui savait transformer un lieu, aménager l'espace et créer une ambiance. Elle s'attachait toujours à trouver des solutions innovantes, que ce soit pour des commerces, des bureaux ou des habitations. Et elle avait appris à gérer les différents corps de métier afin de livrer ses réalisations clé en main. À présent, elle allait devoir prospecter une nouvelle clientèle. Son champ d'investigation pouvait s'étendre soit vers Caen, soit vers Rennes. Se retrouver ici, au bord de la mer, et face aux îles anglo-normandes, était un défi qu'elle devait relever. Elle pouvait même envisager de se faire connaître de clients anglais, la liste de ses réalisations lui fournissant une bonne carte de visite. Pour l'heure, la priorité était de gagner de l'argent. Leurs économies allaient être englouties dans les travaux urgents du manoir. Quant à une belle rénovation, il allait falloir attendre. Les livres d'Axel ne rapportaient pas grand-chose, ce dont il était douloureusement conscient. Et son projet de faire un gîte dans les dépendances demanderait aussi un investissement, même s'il se chargeait lui-même de nettoyer et de repeindre. Elle se leva, impatiente tout à coup. Ils avaient choisi la solution des engoulevents d'un commun accord, persuadés l'un et l'autre qu'un nouveau départ dans un cadre différent pourrait sauver leur couple et ainsi éviter l'éclatement de la famille qu'ils avaient construite. Mais n'était-ce pas un leurre? Où qu'on aille, n'emportait-on pas ses problèmes dans ses valises? Néanmoins, bien avant la crise qu'ils venaient de traverser, ils avaient souvent évoqué la possibilité de quitter la capitale et le stress qu'elle générait au quotidien. Depuis qu'elle le connaissait, Axel parlait avec nostalgie de ce manoir qu'il connaissait mal, mais qui le fascinait. Ses grands-parents étaient morts là, après avoir vécu chichement entre des murs qu'ils ne pouvaient plus entretenir. Leurs deux enfants, Viviane et Henri, en avaient hérité. Mais Viviane, qui venait de se marier avec Maurice, refusait d'habiter la bâtisse et avait cédé sa part à son frère, Henri. Celui-ci, jeune ingénieur désargenté, avait eu la chance d'épouser Lucille, une fille de bonne famille, et l'avait suivie à Paris, où elle possédait un appartement. Il ne passait que de très rares week-ends au manoir, dont Lucille disait qu'il était « battu par les vents » et dénué de tout confort. Finalement, elle l'avait vidé de ses meubles au prétexte qu'il s'abîmait et en avait vendu la plupart, le rendant ainsi inhabitable.